Patrick Artus, merci d'avoir rejoint la rédaction de Challenge. Nous allons parler des inégalités en France.
Oui, alors il faut d'abord préciser de quelle inégalité on parle. Les inégalités de revenus, quand vous regardez les différents indicateurs, les indices de Gini hein, qui mesurent le degré des inégalités de revenus, la progression relative des salaires ou des revenus ou de la productivité, il n'y a pas d'aggravation des inégalités de revenus, il y a même une légère amélioration des inégalités de revenus. Et puis il y a un travail de l'INSEE qui était extrêmement intéressant, qui montre que lorsque vous comparez le revenu des 10% au revenu le plus élevé et des 10% qui sont dans le deuxième décile, hein, qui ne sont pas les plus pauvres, c'est les juste après, hein, c'est qui sont entre 10 et 20% de la distribution des revenus, ce rapport de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% qui sont à cette position, enfin qui sont pas les 10% les plus pauvres, mais qui sont juste au-dessus, ce rapport est de presque 9 à 1 avant politique redistributive. Il est, le rapport de revenus dans ces deux catégories passe de 5 à 1 si vous incluez les politiques redistributives, les cotisations sociales, les impôts, les politiques redistributives qui ont un effet sur la, qui ont un effet d'argent, hein, d'argent prélevé ou d'argent donné. Et ce rapport tombe de 3 à 1, tombe à 3 à 1 si vous intégrez les dépenses publiques gratuites, par exemple les dépenses d'éducation, les dépenses de santé, les dépenses de logement, etc. Et il y a plutôt une baisse au cours du temps de ce rapport de 3 à 1 qui est la vraie inégalité hein, entre les 10% les revenus les plus élevés et les 10% qui sont dans le deuxième décile de revenus. Donc, on peut toujours désirer redistribuer davantage, mais enfin, je crois qu'il y a, une énorme redistribution, en particulier en France, par la gratuité d'un certain nombre de services publics. Donc, on parle aujourd'hui plutôt des inégalités patrimoniales, et là, on n'a pas la même constatation. Les inégalités patrimoniales ont cru dans le temps. Alors, elles ont cru plus dans les moments où il y avait des poussées des prix de l'immobilier et des actions. Mais si vous regardez la proportion du patrimoine total détenu par le pourcent de Français les plus riches, elle était de 18% en 1990 et elle est de 27% en 2021. Et donc, il y a une hausse constante de la concentration des patrimoines. Si on regarde la composition du patrimoine, vous voyez que la composition du patrimoine des plus riches comprend essentiellement du patrimoine professionnel. Hein. Les 1% les plus riches détiennent 66% du patrimoine professionnel détenu en France. Alors, la question se pose d'abord pourquoi il y a eu cette augmentation des patrimoines, cette augmentation de la richesse des Français les plus riches. Bien, la réponse est assez simple, la nature de l'épargne des Français les plus riches est très différente de la nature de l'épargne des Français les plus modestes. Quand vous regardez le rendement des actions, par exemple, ou des participations dans les entreprises en moyenne depuis 1995, ce rendement a été de 9,4% par an. Et quand vous regardez le taux d'intérêt à 10 ans moyen depuis 1995, il a été de 3,2%. Ce qui veut dire que si vous êtes riche, si vous possédez une entreprise, un portefeuille d'actions, etc., vous avez presque 10% de rendement de votre patrimoine tous les ans. Et si vous possédez de l'assurance vie ou des dépôts à terme ou des comptes sur livret, vous avez à peu près juste au-dessus de 3% de rendement de votre patrimoine par an. Et donc, quand vous cumulez cet écart de rendement, qui simplement est le fait que les plus riches prennent plus de risques avec leur patrimoine, hein, eh bien, vous arrivez à cette hausse continuelle des inégalités patrimoniales, ce qui ne vaut pas à nouveau pour les inégalités de revenus. Alors, que faut-il faire ? Je crois que les inégalités de revenus, c'est un débat un peu vain, c'est-à-dire on ne va pas augmenter la taille de la redistribution. On disait tout à l'heure qu'elle était extraordinairement forte. Elle passait de 9 à 1 à 3 à 1, le rapport entre les 10% les plus, les, aux revenus le plus élevé, les 10% compris entre le premier et le deuxième décile. Donc on a un niveau de redistribution de revenus extrêmement important. On peut bien entendu à faire des actions contre la pauvreté, contre les bas revenus, pour sortir les gens du RSA, c'est extrêmement positif. Mais globalement, on n'a pas un niveau choquant d'inégalité de revenus. La question se pose vraiment sur les inégalités patrimoniales. Alors, le travail de l'Institut des politiques publiques a mis en évidence une deuxième cause d'augmentation des inégalités patrimoniales, au-delà du fait que les plus riches prêtent, utilisent leur épargne avec des utilisations qui ont des rendements supérieurs nettement aux personnes d'un patrimoine plus modeste. La deuxième cause, c'est le taux d'imposition des patrimoines, mais je crois qu'il y a vraiment un problème de méthodologie. D'ailleurs, qui est très clair dans le rapport de l'IPP. L'IPP ajoute les revenus du capital et les revenus d'entreprises qui sont non distribués. Hein. Et ces revenus d'entreprises non distribués sont simplement taxés à l'impôt sur les sociétés à 25%. Et donc, quand vous avez des personnes qui sont très fortunées, l'essentiel de leurs revenus, c'est des revenus d'entreprises non distribués qui sont réinvestis dans l'entreprise. Et donc, leur taux d'imposition converge, je crois qu'il est de 27% en moyenne, mais il converge vers 25%. Et remettre en cause ça, ça remettrait en cause l'idée qu'on privilégie les profits non distribués par rapport aux profits distribués et donc qu'on accepte qu'il y ait beaucoup moins d'investissements. S'il y avait la même fiscalité sur les profits non distribués et pas distribués, bah probablement les entreprises distribueraient beaucoup plus de profits et elles réduiraient profondément leurs investissements. Donc je crois qu'il ne faut vraiment pas tomber dans ce piège de considérer que les revenus non distribués d'entreprise, c'est des revenus personnels, c'est des revenus de l'entreprise, ils sont investis. Et d'ailleurs, quand vous regardez le taux d'investissement des entreprises françaises, il a monté de 3 points de PIB entre 2018 et le premier trimestre 2023. Il y a une vraie, très forte hausse du taux d'investissement des entreprises. Il ne faut pas compromettre ça, quoi. Donc c'est des investissements qui nous donneront de la croissance dans l'avenir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on se place dans la logique alors du rapport de Jean Pisani et Selma Mahfouz, hein, qui montre qu'il n'y aura pas assez de ressources pour financer la transition énergétique ou ce qui va avec, hein, la correction des inégalités qui sont induites, etc. Eh bien, je crois qu'il ne faut certainement pas taxer à l'impôt sur le revenu les profits non distribués. Et puis ça aurait des conséquences absurdes. Il y aurait des gens très riches qui devraient donner plusieurs années de leurs revenus distribués en impôts, quoi. Ça serait absolument insensé. Et puis ça aurait un effet très très négatif sur l'investissement. Je crois que si on manque de ressources pour financer la transition énergétique, vous savez que les estimations minimales, c'est qu'il faut investir 3 points de PIB en plus pendant 20 ou 30 ans pour réaliser la transition énergétique. On peut envisager effectivement un impôt, mais sur le patrimoine des Européens, parce que si un seul pays applique cet impôt, il y aura effectivement des mouvements de capitaux entre pays. Il faudrait avoir une taxe européenne, pas sur le revenu, hein, une taxe européenne sur le patrimoine, avec un seuil de déclenchement de la taxe assez élevé et un taux assez modéré. Si vous avez... Je crois que Jean Pisani propose une taxe de 5% étalée sur 20 ans, sur 30 ans. Donc c'est un taux très faible. Et dans ces calculs, ça permet de financer correctement la transition énergétique. Donc je crois qu'on peut, argumenter qu'on peut reprendre une petite fraction des plus-values en capital sur l'immobilier, sur les actions, qui sont dues au fait que le capital a eu un rendement extrêmement élevé, et en particulier parce que les taux d'intérêt des banques centrales ont été très bas dans la période récente, et donc c'est une partie d'enrichissement qui n'est pas liée au talent du propriétaire de ce patrimoine. Mais on peut pas, on peut pas, il y aurait des conséquences absolument dramatiques à taxer à l'impôt sur le revenu les profits non distribués. Il faut au contraire encourager les entreprises à ne pas distribuer leurs profits et à les investir, hein, dans la configuration actuelle. Et donc, il faut laisser un avantage fiscal aux profits non distribués assez important. Mais on peut justifier probablement une taxation du patrimoine, un retour d'un ISF vert, hein, comme certains l'ont évoqué, à un taux raisonnable, avec un seuil de déclenchement assez élevé, hein, qui ne taxe pas les pêcheurs de l'île de Ré. Hein, et pour une période limitée de temps, enfin limitée de temps, c'est 20 ans ou 30 ans, c'est la durée de la transition énergétique. Et je crois que ça serait bien accepté, y compris par les personnes qui seraient taxées et qui rejetteront vraiment massivement la proposition de l'IPP qui est pas justifiable et qui accepterait de contribuer plus à condition que ça soit vraiment pour financer des investissements de transition et que ça tombe pas dans le corps général du budget de l'État.
J'avais une question. Une grande partie des 500 riches de Challenge sont des héritiers. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec l'impôt sur les successions, voire avec le pacte Dutreil? Est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause un certain nombre de mécanismes fiscaux?
Mais il y a deux objectifs contradictoires. Je passe sous silence le fait que les Français détestent les impôts sur les héritages, y compris quand ils ne sont pas concernés, hein, donc on sait ça. Mais il y a quand même deux objectifs contradictoires. Il y a un objectif de réduction des inégalités de patrimoine, et donc on dit, mais il y a un objectif de constitution d'un ensemble d'entreprises familiales, d'un Mittelstand français. Si vous regardez les ETI, en France, on dit qu'on a à peu près 5000 ETI, mais en réalité, on n'a que 1500 ETI, des entreprises de taille intermédiaire familiale, parce que les 3500 autres sont des filiales à 100% de grands groupes. Et donc, on a 10 fois moins d'entreprises de taille intermédiaire que les Allemands. Si on veut constituer, et les ETI investissent beaucoup, sont attachés à leur territoire, etc. Et donc, si on veut se constituer un tissu d'entreprises de taille intermédiaire, on ne peut pas exproprier les héritiers à chaque génération d'entrepreneurs. Donc, je crois qu'il faut, il faut abandonner l'idée de taxer l'outil professionnel. Et les statistiques disent que le milieu des ETI est un milieu très, très dynamique. Hein. Donc, ce n'est pas des entreprises qui s'encroûtent. Donc je pense qu'une taxation à un taux très modéré de la richesse financière, c'est très supérieur. C'est pas contradictoire avec un autre objectif. Un objectif de justice sociale, évidemment, justifie de taxer même les succès des successions. Mais honnêtement, vous échouerez toujours à ce moment-là. Si vous forcez à la cession des entreprises à chaque génération d'entrepreneurs, vous échouerez toujours à constituer un tissu décent d'entreprises familiales.
Alors si on s'accorde à ce qu'effectivement cet éventuel ISF vert soit avec un taux très modéré, beaucoup plus bas que celui de l'ancien ISF, la question se pose jusqu'où on descend, jusqu'où on considère que les gens sont riches. Pisani-Ferry prend les 10% les plus riches en termes de patrimoine, hein, on parle bien toujours de patrimoine. On a vu Jean-Pierre Levat qui allait beaucoup plus loin, qui évoquait les 50% les plus aisés. Quelle est la bonne assiette pour un tel impôt qui vous semble acceptable s'il est encore une fois avec un taux modéré?
Les 10% les plus riches détiennent 60% du patrimoine, hein, en France, hein, et les 1%, 27%. Moi, je pense que pour éviter les complications de l'ISF, vous savez que l'ISF, dans sa version antérieure, descendait assez bas dans le niveau patrimonial, hein, et qu'il y avait des gens qui devaient utiliser une clause de sauvegarde qui disait qu'on ne pouvait pas payer plus de X% de son revenu courant sous forme. Moi, je suis pour un seuil assez élevé. Si vous prenez le 1% de Français les plus aisés, ils ont un revenu de 115 000 euros par an en moyenne. Et si vous prenez le 0,1% de Français les plus aisés, ils ont un revenu de 300, enfin par unité de consommation, hein, c'est divisé par le nombre de personnes du foyer, enfin, les enfants comptent moi, et ils ont un revenu de 300 000 euros. Ben, moi je trouverais légitime, enfin, je trouverais raisonnable de limiter ça oui, à un petit nombre de gens, enfin, je veux dire peut-être 0,5% des Français les plus aisés, peut-être 0,01% des Français les plus riches, etc. Parce que si vous descendez très bas, d'abord c'est bizarre, quoi. Je veux dire, faire un impôt sur le patrimoine, sur des Français qui ont des petits patrimoines, c'est un impôt sur le patrimoine. Donc le patrimoine est très concentré. Moi, j'imagine pas que ça taxe plus que 1% des Français, quoi dire.
Je reviens à l'étude de l'Institut des politiques publiques qui admet que notre système est très progressif jusqu'au sommet de la pyramide. Mais en fait, le problème, c'est vraiment le sommet, les quelques centaines de très riches. Et là, il pointe deux spécificités pour la France. Le fait que en France, les très riches peuvent loger leurs dividendes dans des holdings et donc ne pas être taxés, et le fait qu'ils payaient peu d'anciennes ISF à cause du plafonnement de l'ISF, qui fait que par rapport à leurs revenus, comme ils se distribuent relativement peu de revenus, donc ils sont très peu taxés. Est-ce qu'il ne faut pas quand même des actions, des mesures pour cibler cette catégorie et faire comme font les Américains ? Les auteurs de l'étude rappellent que les Américains taxent les holdings, alors qu'on ne le fait pas en France. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un sujet...
Je crois que c'est taxé à 20% les revenus de...
Non, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un sujet pour prendre partie de ces revenus qui échappent quand même à l'impôt ?
Oui, mais il y a plein de manipulations fiscales. Il y a plein de riches Américains qui ne se distribuent aucun revenu et qui vivent simplement sur de l'endettement cumulé année après année et gagé sur la valeur de leur entreprise. Et donc, ils ne payent aucun impôt. Et donc, il faut effectivement, il faut corriger, c'est de l'évasion fiscale, quoi. Mm-hmm. C'est légal, mais enfin. Mais mon point était de dire, je crois qu'il faut laisser une taxation des revenus du capital et une taxation des profits, qu'il faut les laisser au niveau aujourd'hui. Je crois que relever la taxation des profits au-dessus de 25% et la taxation des revenus du capital globalement au-dessus de 30%, ça serait une erreur, puisque je pense que ça a eu vraiment un effet positif sur l'investissement. C'est pas un hasard si le taux d'investissement des entreprises françaises commence à s'accroître très très fortement en 2018-2019, quoi, au moment où sont faites ces réformes fiscales.
Donc là, vous avez changé votre diagnostic par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, je me rappelle, on avait fait une tribune sur l'effet de la réforme fiscalité du capital, et à l'époque, on ne voyait pas d'effet.
Bah, écoutez, si vous regardez le taux d'imposition, enfin le taux d'investissement des entreprises françaises, a vraiment monte énormément à partir de 2018-2019. Hein. Alors, je sais qu'il y a des études de confrères qui attribue ça à d'autres causes. Effectivement, les profits des entreprises sont plus élevés, etc. Enfin, je crois qu'il y a plein de causes, mais enfin, quand même, honnêtement, il y a une attractivité de l'investissement en France qui est plus élevée que jusqu'en 2017. Quoi. Je crois que c'est honnête de dire ça. Et donc, ça serait dommage de compromettre ça. À nouveau, oui, vous avez raison. Et s'il y a des montages fiscaux qui permettent de... pratiquement pas payer d'impôts quand on est extrêmement riche, bah, il faut interdire ces montages fiscaux. Quoi. Mais honnêtement, une fiscalité de 25%, 25% sur les profits non distribués, c'est raisonnable, c'est l'impôt sur les sociétés. Et je vois pas, parce que ces profits sont non distribués, ils seront utilisés autrement. Quoi. Ils seront utilisés pour créer de l'investissement, créer du capital. Ça serait dommage de les taxer plus, je crois que...
Eh bien, merci beaucoup, Patrick Artus.